3 étoiles, et sa terrasse panoramique, grandhôtelarras.ch.
Bille en tête. Philippe Ligron et Duja.
Bonjour monsieur, l'émission Bille en tête sur la première. À quoi ressemblaient nos ancêtres les Helvètes ?
Moi, j'étais pas là. C'est con, hein.
Bille en tête au musée romain de Vallon. Bonjour.
Ave du Jatus et bonjour à tous. Donc on se retrouve.
C'est mieux que du Janus.
Ah oui. Enfin, en tout cas, on est très heureux de retrouver nos deux archéologues du jour, qui sont Marie-France Mélan et Clara Agustoni. Mmh. Voilà. Et on va continuer à parler. Alors, hors antenne, Marie-France, vous me disiez que le vin de résine, c'était surtout pour désinfecter les jars, c'est pourquoi?
Oui, alors on pouvait aromatiser le vin avec de la résine, mais à la base c'était pour désinfecter les jars, les dolias dans lesquels le vin se faisait, et ensuite ça gardait. D'abord on poissait ces jars pour les rendre étanches, et puis cette poêle elle désinfectait en même temps, et donc ça donnait un goût au vin. Et c'est la rétine en grec, et bien c'est la même chose. C'est pour ça que c'est un vin qui aujourd'hui n'est plus très prisé, parce qu'il représente un peu le vin des pauvres. Mmh. Mais c'était ce vin qu'on faisait et puis avec les moyens qu'on avait, et voilà, qui a ce goût de résine, mais à la base, c'est pour une chose bien précise.
D'accord. Eh ben c'est bon, moi,
d'apprendre tous les jours. Oui, je suis très content que tu en apprennes tous les jours, Philippe. On revient quand même sur cette nourriture, mais de gens plus modestes, des gens plus humbles. Vous dites avoir trouvé quelques traces. Alors, je pense que la vaisselle était forcément différente, hein, par essence, mais la nourriture elle-même, on se nourrissait de quoi quand on était, je veux dire, quelqu'un des basses classes?
Alors, on mangeait beaucoup de céréales, énormément de froment, de l'orge. Ça, c'était vraiment les bouillies, hein, ce qu'on appelle la pouls en latin. C'était ces bouillies. Il y avait très peu de viande, des herbes qu'on mettait avec des légumes, des carottes, des oignons, etc. De l'ail aussi, qu'on faisait bouillir longtemps. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, on mangeait de temps en temps du porc. On mangeait très rarement, vraiment les jours de dimanche, du poulet. Hein, ce qui est commun aujourd'hui ne l'était pas du tout. Et puis, on pouvait manger du mouton. Et puis, si on était très pauvre et qu'on pouvait avoir de la viande, c'était de la vieille, des vieux animaux, c'était dur, c'était pas de la bonne viande. Et les riches, eh bien, c'était les petits porcs, la viande tendre, la chasse. Donc, ça, c'était réservé aux riches.
Est-ce qu'on s'amusait à manger des mets exotiques? On sait qu'on pouvait quand même avoir un vivier d'animaux d'un peu partout autour de la Méditerranée, j'imagine, avec des bestiaux peut-être un peu particuliers. Ça faisait aussi partie de la fierté du patricien, par exemple, d'exhiber, je ne sais pas moi, des lions ou des gazelles ou des antilopes, parce que je sais qu'il y a eu des recettes avec des mets quasi africains ou ce genre de choses.
Alors, oui, en quelque sorte, on trouve, il y a des traces d'Apicus qui dit qu'il avait entendu parler des crevettes libyennes, qui paraît-il étaient extraordinaires, et il était tellement fou de gastronomie qu'il a frété plusieurs bateaux, un ou deux bateaux, je crois, pour traverser la Méditerranée et aller chercher ces fameuses crevettes libyennes dont il avait tant entendu parler. Et quand il est arrivé sur les côtes de Libye, les pêcheurs sont venus leur présenter ces crevettes, et il était très déçu. Il le dit, j'étais très déçu de ce que je voyais, alors il est rentré sans en prendre. Ouais. Donc on pouvait aller chercher des mets exotiques. Et puis du reste, il ne faut pas oublier que Rome était en connexion permanente avec l'Orient par la route des épices. Donc il y avait toujours des nouveaux aliments qui venaient et qui agrémentaient l'étape des Romains. Mais je voudrais revenir tout à l'heure à ce que tu disais au début de cette émission. Tu parlais des pauvres, en fait, hein, dont on ne connaît que peu de choses. Il faut savoir qu'il y avait déjà à cette époque-là l'ancêtre des take-away, hein. C'est ces fameux fast-food, hein, qui s'appelaient Thermopolium, et il y en avait à Rome partout. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel empereur voulait les fermer, je crois, parce que c'était vraiment dégoûtant, quoi. Il y avait énormément de problèmes d'hygiène, c'est juste ou pas, non?
Difficile voilà. À dire, non.
Vous n'avez jamais fréquenté de Thermopolium?
Non, on est dans la catégorie des...
Ah, c'est ce que je disais. Mais qu'est-ce qu'on pouvait manger, alors?
On mangeait
un Big Macus?
Non. Non, mais Césarus, ouais, c'était et un cornet de fritus. Non, c'était essentiellement des bouillies, et c'était des sortes de bancs comme ça où il y avait des. Ça ressemblait un peu à ces potagers qu'on peut retrouver du 19e siècle déjà sous nos latitudes, où il y avait ces pots, et puis les gens venaient se servir. Il faut savoir que les pauvres n'avaient pas de cuisine chez eux, hein. Déjà, ils vivaient presque dans la rue. Pour ceux qui avaient une maison, ils vivaient à plusieurs dans une pièce. C'était vraiment très très rudimentaire.
Alors comme Marie-France Mélan, une petite lumière rouge qui s'agite.
Allez-y.
Je pense pas qu'ils n'avaient pas de cuisine.
Non, mais c'était pas fréquent quand même. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans la rue.
Ça dépend. Si on se place à Rome maintenant, ceux qui avaient des belles cuisines, c'était des cuisines avec un plan de travail à hauteur de personnes. Et, mais les pauvres, ils avaient toujours un foyer par terre. Et ils faisaient la cuisine par terre, avec une potence et puis un chaudron. Et ils pouvaient cuire sur un simple feu des braises, un pot à cuire avec trois pieds. Et puis
Quand je dis les pauvres, c'est ceux qui n'avaient même pas ça. Moi, c'est ceux
je pense que tout le monde avait ça. Ouais. On n'y était pas, ni moi, mais je pense.
Mais ces thermopolyums, c'était quand même des endroits.
Mais bien sûr, parce que comme a dit Clara tout à l'heure, c'est que les gens prenaient peu de temps à manger à midi. Ouais. Donc ils se promenaient, ils réglaient leurs affaires dans les villes et puis ils allaient au bar, comme on a en Italie. Aujourd'hui, on a peu ce genre de bar, mais où on peut aller, on mange un sandwich, on boit un café ou un verre de vin et puis on s'en va. Donc c'est exactement ça a été gardé de Méditerranée, ce genre de choses.
On y mangeait quoi là-dedans? Uniquement des bouillies ou il y avait des choses quand même un peu différentes?
Des morceaux de viande aussi.
Oui, des morceaux de viande, des pot-au-feu, des olives, des tartines avec du fromage frais, des choses
des tapas,
à l'ail,
en fait.
Des choses comme ça. Je pense que c'était du pain, du vin et des choses simples.
C'était quand même des endroits qui étaient, paraît-il, très mal réputés parce qu'à un moment, ils ont dû les fermer.
Oui, parce qu'il y avait de la prostitution, il y avait des arrière-boutiques, il y avait des gens qui s'adonnaient au jeu.
Mais
il y avait
non.
Des pots, il y avait toutes ces choses qui sont tellement humaines et donc qu'on retrouve partout.
Bonjour, messieurs Dambi, en tête sur la première, qu'est-ce qui est nécessaire à la réussite d'une orgie?
La diversité, non?
Absolument, oui, la diversité.
Je parlais de nourriture aussi, hein.
Orgie
de type romain.
Mais moi, je vous répondais nourriture aussi.
Des spirituels, des nourritures célestes, qu'est-ce qu'il y aurait?
Qu'est-ce que vous mangeriez, vous, durant une orgie?
Comme dans Astérix, la fondue. Un petit morceau de pain et les coups de fouet, tout ça.
Ah, vous aimez ça, vous?
Non, pas du tout. Mais j'aime la fondue.
Ah ouais. Racontez-nous, les lieux de luxure de l'époque, ça ressemblait à quoi? C'était comment?
Alors, il y avait ces bars dont vous parlez qui pouvaient être tout à fait bien, puis d'autres qui avaient des arrière-boutiques où on allait jouer et puis où on trichait aussi. Et il y avait aussi des femmes qui étaient là et donc il y avait de la prostitution. Il y avait aussi des lupanars, mais ceux-là, ils font partie des villes romaines. C'était des établissements publics et puis on entrait là et on pouvait choisir. Il y avait même à Pompéi, il y a des peintures murales où on voit 1, 2, 3, 4 en chiffre romain avec des positions, etc. Puis on pouvait dire, moi je veux ça, je veux celle-ci. Et puis on pouvait partir avec la dame et revenir. C'était toutes petites pièces. Et ça faisait partie de la vie.
Dame était peinte sur le mur ou c'était la position, le service, pardon?
Oui.
Parce que des fois, il peut y avoir tromperie sur la marchandise.
La dame était peinte sur le mur. Enfin, pas celle-là, mais avec une position. Et puis en fait, une femme venait donner ce service à celui qui payait.
Ouais. D'accord.
Et cette idée de débauche, de luxure qu'on a souvent aux Romains, est-ce qu'on buvait vraiment? Est-ce que Rome, c'était une Las Vegas?
Mais je pense que ça faisait partie de la vie, comme aujourd'hui. On peut, les archéologues qui retrouveraient des traces de nos mœurs verraient qu'il y a des tripots, qu'il y a des casinos, qu'il y a des lieux de prostitution. Maintenant, comme c'est vrai que ça transparaît chez des auteurs, et puis qu'on en a fait, que le cinéma est responsable de ça.
C'est énervant, ça, quand on est historienne, archéologue, on se dit non, mais là, il y a quand même une distorsion.
Non, c'est pas énervant, c'est drôle. Enfin, voilà, c'est à nous de rétablir la vérité par ce qu'on trouve, par nos musées, et c'est nous qui rétablissons. Finalement, ce que je trouve génial, c'est de dire que les hommes d'autrefois sont les mêmes qu'aujourd'hui, avec les mêmes préoccupations, avec les mêmes envies. L'amour est présent, la peur de la mort est là, autrefois comme aujourd'hui, puis c'est ce qu'on essaye de montrer.
Est-ce qu'il y avait plus de... Vous parliez de la mort juste avant, la vie courante de ces gens-là. Est-ce qu'il y avait plus de superstitions qui étaient liées à l'alimentation? On entend beaucoup de choses par rapport à ce triclinium, ce chiffre 3 qui était un chiffre sacré chez les Romains. Est-ce qu'il y avait quand même cette religion qui était quand même plus présente que notre société moderne d'aujourd'hui? Parce qu'il y a 100 ans derrière, c'était quand même assez aussi pris dans la religion.
Parce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on n'est pas superstitieux et qu'on n'a pas des croyances.
On n'a pas nos principes gastronomiques qui sont établis autour de superstitions.
Mais moi, je suis, par exemple, convaincu qu'après un week-end très chargé, je mange un oignon et puis mon corps est purifié.
Hein. Ah ouais, mais il y a ton corps, alors. Hein.
Quand on voit des dames, quand on voit des dames qui vont au loto aujourd'hui, qui prennent encore des oignons, qui prennent des petits cochons, enfin, il y a toutes sortes de choses. C'est des croyances. Voilà, je pense que ça fait partie de l'humain.
Okay.
Voilà. Et je pense pas que les Romains étaient plus que les autres.
Enfin, il y avait tout un panthéon de dieux qui correspondait à certaines choses. Ça avait l'air compliqué, tout ça, non ?
Non, c'est pas compliqué. Ils avaient des dieux pour différentes choses de la vie. Le dieu de l'amour, la déesse de l'amour, le dieu
de la guerre. On peut se les refaire, là, juste pour le plaisir de se rafraîchir la mémoire. Oui, parce que c'est un classique quand on est à l'école, souvent. Je me souviens, moi, avoir appris les dieux romains, grecs, avec leur pouvoir.
Et... Je dirais que dans les dieux canoniques, on va
d'accord.
dire...
D'accord, les plus connus.
Il y a quand même Jupiter, Zeus, qui est le dieu des dieux, ouais. Celui qui est le maître de l'Olympe.
Mars, qui est le dieu de la guerre, non ?
Mars, voilà. Il y a Mercure, qui est le dieu voyageur, protecteur des patrons et des voleurs aussi. Ouais. Il y a le
dieu... Junon.
Voilà, là, c'est l'épouse de Zeus, la Junon, la Héra en grec. Il y a Dionysos Bacchus, dieu du vin, de la vigne, des fêtes.
Thanatos.
Non, ça c'est la mort.
C'est grec, mais il a forcément. Non, il y a pas Thanatos. Il y a pas de version romaine.
Dans le panthéon des 12 dieux, non, il y a Déméter, la déesse de la fertilité.
Et Diane, non aussi.
La déesse de la chasse, Diane. Apollon, son frère, aussi. Dieu guérisseur et aussi. Est-ce qu'on les a tous faits? Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hestia, c'était la déesse du foyer. Il y a encore, on a dit Aphrodite, et bien sûr, la déesse de la guerre, Athéna. Elle, et pas seulement et de la guerre, de la sagesse et des arts. C'est une magnifique déesse.
C'est marrant parce que là, on voit qu'il y a quand même chaque fois une version romaine du dieu grec. Et il n'y aurait pas Thanatos, alors. Ni Arès.
Si, Arès.
C'est Mars. Ça existe.
Et Hadès.
Si, Hadès, le dieu des enfers.
Voilà.
Et Poséidon, là, pas dit non plus, Neptune. Neptune, le dieu de la mer. Je crois qu'on les a tous, cette fois.
Mesmo que eu tenha criado um traje especial.
rapport à ces dieux, il y avait des statues. Ces statues avaient aussi quelque part un rôle de protection. J'entends, on a retrouvé en Arles dernièrement énormément de statues dans le Rhône parce que elles avaient été certainement jetées par des barbares qui ont dit qu'elles auraient peut-être été jetées par des barbares qui en avaient peur. Est-ce que ces statues avaient ce rôle protecteur de faire peur aux ennemis comme ça?
Non, je crois pas. Je pense que ces statues, si c'est des statues de culte, elles étaient dans un temple, dans une chapelle, elles étaient vénérées par la population. Ensuite, il y avait des statues qu'on pouvait mettre chez soi, dans un petit hôtel domestique, comme il y en a un très beau ici à Vallon. Et ça, c'était des statues qui étaient censées protéger la famille. Et je pense que c'est plutôt... c'était pas destiné à faire peur à l'ennemi, mais à protéger vraiment la population. Il y en avait dans les ports, par exemple, pour protéger les navigateurs qui partaient et ceux qui revenaient. C'était toujours... On savait jamais. Hein, on savait quand on partait, on savait jamais quand on revenait. Donc, c'est vraiment plutôt des dieux protecteurs.
D'accord.
Qui peuvent être punisseurs aussi si on ne fait pas bien. Hein, donc c'est aussi...
Et par rapport à ces statues, donc le buste d'Aurel, on connaît sa signification, son rôle?
Oui, alors le buste de Marc Aurel qui a été retrouvé à Avenches en 1940, qui est tout en or. Il est fait d'une seule feuille d'or et il est creux. Et il avait des petits rivets autour de son buste et donc c'est donc une statue qui était portée au-dessus d'un piquet avec un tissu qui pendait et qu'on emportait dans les processions. Hein, donc, parce que l'empereur, tout comme les dieux, était présent partout, dans tous les niveaux de la vie. C'est pas comme aujourd'hui où il y a le côté religieux et le côté non religieux. C'était vraiment la religion fait partie.
Mais l'empereur était considéré comme une divinité.
Alors il pouvait être considéré comme une divinité, voilà. Et donc l'empereur et les dieux sont présents dans les spectacles d'amphithéâtre, de théâtre, dans les cérémonies religieuses. Ils assistent. Alors ils assistent pas physiquement, mais ils assistent avec au moins de statues ou d'images. Et c'est vrai que ce buste en or représente l'empereur et ça devait être une figure du culte impérial.
Une question complètement naïve, mais y avait-il à l'époque des gens qui remettaient en question l'existence des dieux, des athées ou déjà les prémices du christianisme, je ne sais pas, ou d'autres religions peut-être qui ont disparu? Et y avait-il déjà des démocrates qui s'inspiraient de la Grèce antique et qui disaient « mais non, mais cet empereur, enfin voilà, vous comprenez où c'est que je veux en venir ? » Est-ce qu'il y avait des gens, des révoltés, des rebelles qui remettaient le système en cause ?
Alors, on a des témoignages, on a des écrits qui nous disent, effectivement, les gens ne sont plus très croyants. On a, par exemple, dans une comédie de Plaute, si ma mémoire est bonne, il y a le lard, donc les divinités protectrices de la maison, qui disent « Ah, c'est plus comme autrefois, on venait régulièrement, pratiquement tous les jours, hein, plusieurs fois par mois, etc. » Donc, il y a certainement aussi des gens qui ne pratiquent, en tout cas pas, qui ne croient pas... c'est pas une croyance comme celle qu'on entend aujourd'hui. Hein. Donc, il y a des gestes, il y a des prières, même des moments auxquels on doit participer. En fait, vous êtes tout à fait libre hein, donc de vos croyances, en fait.
Marie-France Mellin.
Oui, je rejoins. C'est pas croire comme on croit aujourd'hui. Ça fait partie de leur vie. Il y a les rituels à accomplir. On le fait sans penser. Voilà, ça peut pas faire de mal. Hein, de toute façon, si on le fait pas, on le fait pas. Mais si on le fait, ça peut toujours nous être utile. Donc, voilà, c'est...
Des gens qui remettent en question Dieu, le pouvoir aussi. On a des traces de gens qui voulaient reconfigurer la société autrement.
Moi, je sais pas si ça peut s'exprimer de cette manière. Il y a certainement des gens comme à toute époque, qui ont dû remettre en cause l'empereur, mais les traces comme ça dans l'histoire. Parce que finalement, ils avaient une vie relativement agréable à un certain moment où c'était un empire très riche, où les gens avaient du travail, où les étrangers ont été intégrés. Je veux pas dire que c'était l'idéal, mais enfin, voilà, il y avait pas non plus.
C'est un plaidoyer pour l'Europe, là, ce que vous nous faites.
Absolument, il y a des liens. Mais la seule chose que demandait l'empereur, c'était qu'on le reconnaisse aussi comme un dieu. Et ça a créé des problèmes avec les chrétiens, évidemment, parce que les Romains étaient très tolérants face à tous les dieux, mais il fallait qu'on le reconnaisse l'empereur. Et les chrétiens n'ont pas reconnu l'empereur, puisqu'ils avaient un seul dieu qui n'était pas celui-là. Et c'est là que les problèmes ont commencé.
Ah ben, tous les problèmes de l'humanité ont commencé là, hein, en gros.
C'est absolument juste.
Bonjour madame, c'est bien en tête sur la première. Vous pourriez me raconter quelque chose sur les Helvètes?
Pas grand chose parce que je ne suis pas d'origine suisse.
Ah d'accord, les Gaulois alors?
Ah ben les Gaulois, ils avaient les grandes moustaches débacantes, ils avaient des casques à pointe, ils étaient gros, ils étaient baffreurs. Voilà, les Gaulois je peux.
Et pourquoi ils ont perdu contre les Romains alors?
Oh, mais ils n'ont pas perdu contre les Romains. Ils ont fait tellement de baffes. Oui, Alésia, mais c'était pour faire un lieu de mémoire en France, c'est uniquement pour ça.
Vercingétorix, vous l'imaginez comment?
Comme on nous l'a représenté dans nos livres de classe, c'est-à-dire grand, les tresses, peut-être un peu plus malin que les autres.
Ce qui ne devait pas être difficile.
Absolument.
Merci.
Je vous en prie.
Philippe, on revient un peu à la nourriture, peut-être...
Une petite recette, peut-être, parce qu'on avait promis à nos auditeurs.
Oui, c'est vrai que souvent on promet des recettes et on ne les tient jamais.
Voilà.
Hein. Et là, on vous le jure, voilà. Une recette.
Une recette très très simple, hein. C'est un des aliments de base aussi de l'alimentation des Romains, c'est les pois chiches. Les pois chiches qui avaient le symbole, la signification, la symbolique de la fertilité. Ils avaient, paraît-il, la réputation d'augmenter le sperme aussi, la quantité. Ils les consommaient de la façon suivante. Ils préconisaient de les laisser tremper dans l'eau toute une nuit et ils les faisaient griller comme ça. J'ai jamais essayé, mais ça devait être pas très agréable à manger. Sinon, on pouvait ensuite faire comme on fait d'habitude, les mettre à cuire dans de l'eau. Et puis après, ils les écrasaient. Ils faisaient une sorte de bouillon.
Du houmous.
Du houmous, tu rajoutes de la tahina dedans, tu rajoutes quand même du jus de citron, alors que là, ils rajoutaient des herbes dedans.
Je ne sais pas si à l'époque, il n'y a pas un mec qui n'a pas essayé un jour de mettre du jus de citron.
Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est marrant parce que, n'empêche, tu dis ça, on sait que le houmous, ça vient des mésés libanais, Liban, Baalbek, on est en plein dans l'Antiquité, on sait que Baalbek avait des liens avec tout le pourtour méditerranéen, donc pourquoi pas? Mais en attendant, ils mettaient des herbes dedans, ils consommaient ça comme ça, c'est frais l'été.
Est-ce qu'il y a des moments où vous vous plongez dans cette époque où vous êtes ému par la justesse des choses ou le bonheur vécu par ces personnes-là à 2000 ans d'intervalle? Enfin, est-ce que quand on est archéologue, il y a des moments où on peut être ému à distance, je dirais?
Oui, ça m'est arrivé personnellement quand on découvre des traces, quand on fouille par exemple, et vous voyez, on fait toujours tous un peu le même exemple, hein, l'empreinte du pied d'un enfant sur une tuile. C'est vrai que c'est...
Ah oui, l'empreinte d'un pied d'enfant sur une tuile, Philippe, ce sera ton cadeau de Noël cette année.
Mais en général, je dirais, quand on voit, on découvre quelque chose, c'est l'émotion d'être là à ce moment-là, donc, et puis de sentir le passé qui est vivant quelque part. Hein, donc,
Je connais un autre archéologue aussi qui m'a beaucoup parlé de ses enfants. Ils ont retrouvé des choses liées à l'enfance. Comment ça se fait qu'on est autant ému par l'idée de l'enfance à des millénaires de distance?
Je ne sais pas, parce que ça nous ramène à notre propre vie, à notre propre enfance, à ce cycle de la vie. Moi, je pense, les enfants, ça émeut, mais il y a l'amour, les gens préoccupés par l'amour aussi. On a retrouvé des bagues avec des mots d'amour dessus, à ma plus belle, à ma plus douce. On se rend compte que les gens étaient comme nous.
Déjà menteur, hein.
Ça, c'est vous qui le dites. On a des témoignages de parents qui sont très tristes d'avoir perdu leurs enfants, qui ont gravé ça dans la pierre. On a des témoignages des graffitis, par exemple, sur des murs d'école. On a des enfants qui se sont embêtés, ennuyés, comme on a pu être nous-mêmes. Donc, ça nous ramène vraiment à notre condition d'humain. Et je trouve que c'est très, très émouvant de voir qu'en 2000 ans, finalement, l'humain reste le même. C'est les moyens qui ont changé, c'est l'environnement, mais l'esprit humain, l'envie d'aimer, de mourir, enfin, la peur de mourir, la tricherie, la jalousie, frauder, toutes ces choses, jouir de la vie, aimer les bonnes choses, tout ça, c'est tellement humain.
Et ça, c'est intemporel à travers toutes les histoires de toutes les humanités de partout dans le monde.
Tout à fait, oui.
Il y a des choses qui sont comme ça, universelles.
Absolument universelles.
Intemporelles, universelles.
Oui, c'est peut-être justement le bonheur de pouvoir faire l'archéologie, c'est ça, d'être confronté à ce genre d'objets, de témoignages, donc, qui nous parlent, qui nous montrent qu'en fait, comme on vient de dire, voilà, on est toujours les mêmes.
Ouais. Pourtant, on a l'impression qu'il y a eu des civilisations où il fallait ne pas avoir peur de la mort, on n'avait pas peur de la mort, où le but c'était de détruire l'autre, il y avait de la violence, il y avait de l'envie de destruction. Ça a aussi existé. Donc comment expliquer qu'il y a des intemporels universels qui sont dans l'amour, dans le partage, dans la solidarité, peut-être des idéaux? Et puis quelque part, il y a quand même cette ombre destructrice qui a marqué l'histoire.
Mais je sais pas quelle civilisation n'a pas eu peur de la mort. Ça j'aimerais savoir. Je crois pas. Maintenant, des civilisations qui ont voulu détruire, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est de nouveau un point de vue, parce que probablement...
Au XXe siècle, on a eu ça, non? L'idée de la destruction comme finalité.
Est-ce que c'est l'idée de la destruction comme finalité? Est-ce que c'était ça la finalité, ou c'était de promouvoir d'autres idées et que c'était un moyen? Je ne sais pas, peut-être ça se rejoint. Mais parce qu'il y a des gens qui sont toujours sûrs qu'ils ont des idées, que c'est les meilleures et que c'est la solution pour le monde, et qui veulent les imposer à tout prix et qui sont sûrs qu'ils sont dans la vérité. Et c'est ça qui est très très dangereux et qui fait qu'il y a des mots en isme ensuite, hein, qui se propagent comme l'extrémisme.
Bonjour monsieur, je pourrais vous poser une petite question concernant l'Empire romain, s'il vous plaît.
L'Empire romain, c'est Lausanne, il y a 3000 ans en arrière à peu près. Ouais, c'est vrai, c'était étendu jusqu'en Suisse, quoi. Les pyramides au fort bord du lac et tout, ouais. Ils ont retrouvé des temples romains et tout ça, ouais, c'est vrai.
Quelle idée vous avez des Romains?
Bah, ils ont tué Jésus, quoi. Ça va pas.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté à notre civilisation?
Ouais, je pense plutôt des questions armées et tout ça, que tout soit droit, carré et tout ça, enfin, quoi.
Il y a quand même certaines possibilités artistiques, non?
Ouais, il y avait, mais je pense que c'était...
Poésie, gastronomie, architecture...
Voilà, l'architecture, voilà, ouais, c'est plutôt, quoi. Ouais, c'était plus, je l'ai dit, un peu... besoin de gérer... de toute cette société, quoi. Obligé d'avoir un gouvernement, mais il faut que ce soit comme ça, parce que sinon ce serait l'anarchie complète, je pense.
Ordre et discipline.
Voilà, je pense que c'est ça qu'ils ont instauré.
Ou la fameuse phrase « Dura lex, sed lex ».
Ah bon, ça je l'ai
La loi est dure, mais c'est la loi.
Ah, d'accord. Bon, bah, bonne journée, merci quand même.
Au revoir.
Au revoir.
On va voir ça tout ça demain encore, Philippe. On va peut-être voir la suite, hein, avec un patricien romain, un vrai, je crois. Tu en as croisé un dans le musée.
Ducru, oui.
Ouais.
Oui, c'est Jean Carlus Simonius. Hein.
Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça.
C'est un truc du style. Hein.
Il y aura Jean-Charles Simon, on va quand même lever le voile. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire ici, Jean-Charles Simon? Quelques mots.
Surprise.
Oh non, c'est pas juste. Parce qu'il y a des choses qui sont prévues avec lui.
Oui, le musée romain de Vallon a la chance de pouvoir travailler avec lui à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc il y aura des visites guidées en tandem avec ce patricien Ducru. Ouais,
et vous le trouvez très crédible? Est-ce que c'est une forme de réincarnation? Jean-Charles Simon aurait pu être un patricien romain de l'époque?
Il faudra venir voir aux Journées du patrimoine.
Ouais, on verra déjà ça demain, Philippe, si tu le veux bien. On retrouve toutes tes petites photos sur la page Facebook de l'émission, et puis allez donc faire un tour sur rts.ch/bi. Vous pouvez réécouter les émissions, parce que souvent on me dit « Oui, mais 9h30, on n'a pas le temps d'écouter la radio, ça suffit maintenant, nous sommes en 2014, je crois qu'il y a les moyens de réécouter ces émissions. » Merci Philippe, merci à vous deux. On se retrouve demain donc avec Jean-Charles Simon, 9h30, 10h sur la première dans Bille en tête, ici à Vallon, Musée Romain.
On vous embrasse, ciao.
Bille en tête, avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
La première, il est 10h.